Très belle journée à l'écoute d'Inter. Denis Chessou nous embarque dans la Drôme aujourd'hui. C'est CO2 Mon Amour jusqu'à 14h.
Bonjour à tous, 21 juin, l'été, la clé du solstice et aussi la clé de sol le même jour, puisque c'est cette belle fête de la musique, oui, que nous avons offert au monde entier en extase. Alors l'été fabrique ses bourgeons, ils resteront enfermés, été, automne, hiver. L'été arrive au grand galop bleu sur le dos du ciel et sera-t-il chaud, très chaud, mi-cuit, à point, brûlant et surtout, la terre va-t-elle plaindre l'eau? Et puisque nous l'avons oublié si longtemps, en général, la nature déréglée se rappelle à nous. Mais en tout cas, le grand oui. Oui, le grand oui à la vie, dont chacun est une étincelle, pour cette dernière de la saison de CO2 Mon Amour. Alors, comme hier dans les Vosges, du positif, avec un territoire qui s'est inventé. Je vous amène dans la communauté de communes du Val de Drôme. De Heure jusqu'au fond du Diois, vous avez toute une chaîne cohérente qui s'est mise en place dans ce lieu où sont concentrés de nombreux agriculteurs bio, donc la Biovallée les a structurés. Il s'agit en fait de conquérir son alimentation. Maraîchers, grossistes, chercheurs, cuisiniers, chevrières, herboristes et aussi les politiques comme Jean Serré, car avant de conquérir son alimentation, on a commencé par sauver la rivière que l'on a sous les yeux, la Drôme qui était polluée.
Le slogan d'époque, c'était rendre la rivière baignable. Aujourd'hui, vous pouvez arriver avec votre voiture au bord de la rivière, vous prenez votre serviette de bain et vous pouvez aller vous baigner dans cette rivière.
Et vous passez maintenant à un autre slogan concernant l'alimentation.
C'est rendre notre alimentation saine et faire du Val de Drôme un garde-manger pour notre département.
Quelle a été en fait la vision politique de cela? Comment se décide une biovallée?
Ça a demandé 10 années, 15 années d'échanges avec aussi des personnes de l'étranger qui travaillaient sur le développement durable.
Vous avez eu aussi pas mal de néo-ruraux qui sont arrivés, vous avez eu des 68ards, donc ça a été un lieu d'expérimentation parce que déjà il y fait bon vivre. Et puis aussi parce que c'est une terre d'apport. Quoi.
C'est une terre d'apport et de pionniers. Et quand on est un pionnier dans un territoire, on apporte son envie de partager et de faire progresser et de laisser une trace quelque part. Toutes ces énergies, toutes ces personnes, nous sommes arrivés à peu près au même âge dans le département, dans la vallée, et nous avons pu arriver à des lieux de responsabilité, soit dans des associations, soit dans des entreprises, soit dans les communes, et on avait, jeunes, quelque part, c'était le même biberon, on avait les mêmes valeurs de conduite de notre vie et de partage. Parallèlement à cela, on s'est, en réfléchissant un petit peu, après des repas, après bureau ou après conseil, il y a toujours des moments où on se lâche et puis on lance des idées, que à travers l'eau, on touchait à des éléments qui étaient essentiels. On allait aussi travailler sur l'énergie, donc un autre élément essentiel à la vie, et puis la terre et donc la nourriture qui était issue de cette terre.
Voilà, il y a côté un peu cinquième élément de Besson. Hein, là.
C'est tout à fait le cinquième élément de Besson. Nous, c'était l'empathie. C'était comment est-ce qu'on peut arriver à motiver les gens par l'empathie, par l'envie de nous suivre. Et ça a été le challenge qu'on a relevé et j'estime qu'on a gagné.
Allez, changement de lieu sur la commune de Vonnavet. Et là, je vois quoi? Brin de terroir. Et à Brin de terroir, nous accueille Nicolas Cosiel. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas, donc, vous faites partie de ces maraîchers bio. Quel âge vous avez?
31 ans.
Et aujourd'hui, donc, vous faites partie de ces maraîchers qui livraient bien sûr en direct. Et puis vous livrez aussi donc, une plateforme qui s'appelle Agricourt.
Voilà, tout à fait.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est?
Alors Agricourt, donc, c'est une plateforme qui fait le lien entre les agriculteurs du territoire et les habitants et les professionnels de la communauté de communes là, du Val-de-Drôme essentiellement. Et donc nous maraîchers, pour nous, enfin en tout cas nous sur la ferme, ça nous importe beaucoup de travailler avec Agricourt parce que ça permet d'avoir ce lien avec notamment toutes les cantines scolaires du territoire. Et ça c'est important pour nous là de fournir un petit peu les enfants, que les enfants puissent manger les légumes de nos fermes. Agricourt nous apporte cette plateforme logistique qui est hyper intéressante pour nous, pour toucher des clients qu'on pourrait pas toucher tout seul dans nos fermes.
Et alors à nos côtés aussi, Florent Dalmasso. Bonjour Florent.
Bonjour.
Florent, vous êtes donc le directeur, vous aussi, donc d'Agricourt aujourd'hui. Vous fédérez combien donc d'agriculteurs?
On a quotidiennement une soixantaine de producteurs au téléphone. Et puis sur l'année, avec les saisons, ça fait une bonne centaine.
Donc ça marche bien parce que donc vous arrosez après, on va dire, combien de cantines, combien de communes?
Alors c'est aujourd'hui, on a dépassé l'agglomération de la communauté de communes du Val-de-Drôme. On est sur Drôme et Ardèche et on distribue des crèches au lycée, en passant par les établissements pour adultes, les établissements de santé et sociaux, ça fait à peu près entre 150 et 200 établissements.
Alors quel est l'état d'esprit? Ça marche évidemment à la confiance, ça marche à la qualité
Le projet Agricours, c'est d'être au service, entre guillemets, d'être des cantines pour les producteurs. Ça veut dire qu'on marche à la confiance, on travaille pour les producteurs in fine, pour les papilles des enfants, etc. L'idée étant de travailler avec des petites fermes, essentiellement sur le Val-de-Drôme, et puis de mettre en valeur leurs produits. Et ça va effectivement du maraîchage avec des fruits et légumes avec Nicolas, par exemple, à la viande avec Thierry. Ça va aussi sur les produits laitiers, l'épicerie, les lentilles locales, etc. Aujourd'hui, on est capable de faire un menu entier uniquement en bio local et en local. Il n'y a plus d'excuse de dire c'est pas possible de se fournir en local et en bio local.
Perrine Tavernier, moi je me retourne vers vous, hein, donc chargée de mission, donc agriculture ici dans cette communauté donc du Val-de-Drôme. On dépasse, on va dire, l'agriculture biologique. On est sur un projet de territoire, mais avec quand même l'alimentation qui chapeaute tout cela.
Oui, parce que pour des élus locaux dans une communauté de communes, l'intérêt c'est de travailler à l'intérêt général. Et autant quand on parle d'agriculture, parfois ça, il y a des personnes qui se sentent pas concernées parce que ça leur semble loin de leur mode de vie ou de leurs préoccupations. Autant quand on parle d'alimentation, on est tous et toutes, ben on mange plusieurs fois par jour et voilà. Donc c'est une façon de reconnecter en fait les habitants à l'agriculture, aux agriculteurs et aux agricultrices de la vallée. L'alimentation, finalement, c'est devenu un sujet hyper fédérateur que les élus se sont appropriés et des projets comme Agricours, des plateformes comme ça, qui proposent des solutions logistiques, c'est vraiment des maillons sans lesquels on pourrait pas mettre en place des systèmes alimentaires de territoire et sans lesquels on pourrait pas prétendre à une alimentation de qualité et locale pour tous.
Parce que parfois, on va vous dire, le cahier des charges, par exemple, des grandes surfaces et puis celui que vous avez est le même. Pas complètement.
Le cahier des charges en tant que tel, si, parce que c'est un cahier des charges européen.
Ouais, c'est ça.
Après, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux personnes qu'un cahier des charges, ça suffit pas. Le cahier des charges, là, il parle juste de mode de production. Et ici, les agriculteurs qui sont soutenus par la plateforme Agricours, par exemple, c'est bien plus qu'un mode de production. C'est des modes de vie, c'est des choix de... Et nous, pour notre territoire, on n'a pas envie d'avoir une bio-industrielle où les fermes feraient 150, 200 hectares. Ce qu'on veut, c'est des fermes nombreuses, des paysans qui s'épanouissent dans leur travail. Et c'est à ça qu'on travaille.
Florent Dalmazo, on a aussi, grâce à Agricours, et puis d'autres évidemment plateformes en France, une différence sociale quand même qui est là.
Oui, en fait, la démarche d'Agricours, elle essaye d'être globale, dans le sens où on essaye d'avoir un prix rémunérateur, c'est-à-dire un prix plus élevé d'achat aux producteurs. Alors après, on réfléchit, mais comment ils font pour acheter plus cher? Ils vendent plus cher? Pas forcément. En fait, on a un système qui est à l'inverse des industriels, qui est un système en circuit court, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a une commande, on mutualise les commandes des clients, des chefs cuisiniers, etc. Ensuite, on passe commande, et ensuite, les producteurs récoltent, on ramasse chez eux ou ils nous livrent, et ensuite on livre. Ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas de stock. Les industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des grosses quantités en tirant les prix au maximum sur les producteurs. Ensuite, ils accumulent ça en stock, donc les fruits et légumes sont pas mûrs, ils les stockent pendant très longtemps, et puis après, ils font du phoning agressif, et ils bradent les prix en faisant constamment des promotions. Et donc, celui qui trime à la fin, c'est le producteur. Donc nous, en gros, au lieu de jeter 30% des fruits et légumes qu'on achète, et au lieu de faire des promotions, on vend au vrai prix des choses, à la vraie valeur des choses, on conserve 30% de ce qu'on jette, et ces 30%, on les distribue aux producteurs.
Ah, une petite arche de pierre. On passe dessous. Perrine, qui nous servait donc de guide, Perrine Tavernier, nous arrivons où?
Alors, nous sommes à la Maison familiale et rurale de Divageux, un centre d'enseignement sur les métiers liés à la ruralité et à l'agriculture. Et c'est aussi un lieu qui héberge l'antenne France du FIBEL, qui s'est installée ici il y a 2 ans. Et nous sommes avec Florence Arsenault, qui va nous expliquer un petit peu l'état de la recherche et les travaux qui sont en cours dans la Biovallée.
Qui est derrière le FIBEL?
Alors le FIBEL, c'est une fondation privée suisse avec différents types d'administrateurs. L'essence même du FIBEL, c'est des agriculteurs qui sont réunis parce qu'ils ne trouvaient pas de conseils suffisants en agriculture biologique. Donc ils se sont réunis au début, ils étaient 4-5, pour pouvoir se payer un conseiller en agriculture biologique et avancer dans leurs recherches et leurs questionnements. Et au fur et à mesure, ça a grandi pour devenir maintenant un institut avec 130 chercheurs. Et en Drôme, on est arrivé parce qu'on a commencé à avoir des liens assez forts avec des éleveurs du syndicat Caprin qui travaillaient depuis plusieurs années sur différents mélanges de plantes pour essayer de soigner leurs animaux contre des parasites internes.
Donc c'est du mélange d'expériences qui se passe,
c'est
véritablement.
Exactement ça, c'est des éleveurs qui expérimentent eux-mêmes certaines pratiques pour soigner leurs animaux, mais qui en sont arrivés à un moment d'un besoin d'une validation scientifique de leurs pratiques. Donc ils ont fait appel au FIBEL, qui ont un expert parasitologue qui travaille beaucoup en aromathérapie, en phytothérapie sur les ruminants. Donc le FIBEL est venu en appui pour mettre en place des protocoles assez simples directement sur la ferme et avec les éleveurs pour tester ces mélanges. Alors on a testé des huiles essentielles, mais on a testé aussi des affouragements comme le sainfoin, qui est une plante qui peut avoir des effets intéressants contre ces parasites de manière préventive. Voilà, donc des approches préventives ou curatives avec différents types de plantes extraites différemment.
Ah, alors là, autre lieu, petit platane, petite cour. Et où sommes-nous à Cray, Perrine ?
Alors nous sommes à Cray, sur le siège de l'association de maisons d'accueil protestantes pour enfants, où nous accueille Aïcha, qui est la cuisinière, qui participe au programme Sa bouche dans la cantine, en fait on accompagne les cuisiniers et cuisinières motivés dans le développement de l'approvisionnement local et bio.
Et qui sont donc alimentés par Agricourt que l'on a vu.
Tout à fait.
Bonjour Aïcha.
Bonjour.
Alors là c'est bien parce qu'on est presque devant vos pianos comme on dit.
Oui.
Alors comment ça s'est passé pour vous si vous voulez donc de vous mettre au bio ?
Ça faisait longtemps que mon chef de service et le directeur de la maison d'accueil avaient ce projet-là d'intégrer du bio et du local chez nous.
Ouais. Et vous y avez adhéré ?
Bien sûr, tout de suite.
Vous avez été assez enthousiasmé.
Oui.
Quelle est la différence quand on travaille du bio ?
Déjà, les saveurs sont pas les mêmes. Hein. Quand on fait des carottes bio, on sent tout de suite la différence. Surtout, nous, ce qui nous importait, c'était faire du local. Parce qu'on trouvait ça important de faire travailler les petits agriculteurs du coin.
Aujourd'hui, maintenant, le résultat, c'est quand même ce qui se passe dans l'assiette. Et si l'assiette est finie, c'est un des plus beaux compliments.
Ils posent des questions, ils demandent ce que c'est, d'où ça vient. Puis quand c'est du bio, moi, je leur précise bien. Par exemple, au niveau des laitages, au départ, ils ne voulaient pas goûter du bio. Puis maintenant, ils en redemandent.
Combien aujourd'hui donc avec ce programme-là donc de cantine, programme d'ailleurs qui a été donc soutenu par la Fondation Carasso, sont maintenant concernés par cela ?
Nous, sur 30 communes sur la communauté de communes du Val-de-Drôme, il y en a 25 qui sont engagés dans la démarche.
Ouais.
C'est un programme qui est ambitieux et qui est complet parce qu'on fait de la formation pour les cuisiniers, mais on met aussi en place des commissions restauration avec cuisiniers, parents d'élèves, élus, directeurs d'école, etc. On met en place un programme pédagogique avec des agriculteurs qui interviennent dans les écoles, des jardins potagers qui sont mis en place dans toutes les écoles et puis des visites de ferme. Donc voilà, c'est un accompagnement assez rapproché pendant un an. Et en fait, le partenariat avec les MEX qui se développe beaucoup grâce à Aïcha et depuis la rencontre qu'on a eue avec Aïcha, c'est pour nous le premier accompagnement d'une structure de restauration collective hors cantine scolaire. Et donc, pour nous, on souhaite vraiment rentrer aussi dans les structures médico-sociales et accompagner pour que en fait, tous et toutes puissent accéder à des produits locaux et bio, et notamment les publics de ces établissements.
Nous allons poursuivre cette ronde d'interlocuteurs, mais alors auparavant, écoutez cela, ça c'est un régal. Merci Thierry Dupin.
Quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o seu coração, água de beber, camarada. água de bebê, água de bebê, camará. Tibadunda, patelada badaba, tibadunda, patelada badaba, tibadunda.
Eh oui, c'est bien, 1965, Astro de Gilberto Agua de Bébert. On a besoin de chèvres, ouais, parce qu'on est dans le pays du Picolon, donc toujours dans la Drôme. Inès de Rancourt est agricultrice, éleveuse à Soux, dont je vous parlerai d'ailleurs dans une émission prochaine, ce sera cet automne. Et Inès est une femme très battante, hein, pompier volontaire, accompagnatrice en montagne, elle fait partie du réseau Accueil Paysan. Et comme nous sommes à Soux, bah, sa ferme s'appelle la ferme de Saouri, enfin de souris.
Là, Mathilde est en train de faire la traite, ouais. Et là, on est en pleine période des amours. Donc notre bouc s'en donne à cœur joie. Il est vraiment en pleine forme, il n'arrête pas de faire des câlins aux chèvres. Il est très affectueux, en fait, bah c'est
oui,
très rigolo.
C'est ça. Donc c'est un bouc bio aussi comme les chèvres.
C'est un bouc bio comme les chèvres.
Ouais. Alors quand ouais, on parle effectivement de bio, ça veut dire que là, je vois donc tout cet herbage. Donc cet herbage est bio.
Ah oui, ça c'est nous qui le produisons en plus, donc ouais, on est certain que c'est du bio, oui.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre pour que ce soit bio? Donc il y a donc l'herbage, mais quoi d'autre?
Les animaux en soi, et puis après tout le matériel qu'on utilise en fromagerie, mais essentiellement c'est ce qu'elles mangent, et puis après comment elles sont soignées aussi.
Alors là, elles sont soignées comment celles-là? Je sais aussi que vous avez des méthodes naturelles, non? Ou...
Alors on utilise un maximum les huiles essentielles, l'homéopathie, et puis il y a des fois où on n'a pas le choix, on utilise aussi du conventionnel, mais la plupart du temps on essaye de faire beaucoup de prévention avec des huiles essentielles essentiellement.
Inès de Rancourt, donc derrière tout ça, il y a quand même une certaine... Oui, je fais attention aux crottes. Comment s'est passé pour vous, en fait, le passage donc, à cette agriculture? Alors, c'était un peu un rêve, hein, que vous aviez.
Oui, c'était un doux rêve que moi, je pensais pas pouvoir toucher parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de terre. Et je me suis dit, c'est un doux rêve que peut-être un jour reviendra. Et Daniel, lui, par contre, il avait les terres, il avait un peu d'argent et il avait cette envie de changer complètement, de prendre un virage dans sa vie professionnelle.
Alors, ce qu'elle veut dire, parce qu'il était un peu dans la course automobile avant.
Ouais, il travaillait dans le rallye auto, donc ouais. Virage à 360 et c'est que du bonheur. Enfin, vraiment, on a une vie très prise, on a un rythme assez dingue, mais pour rien au monde, on retournera en arrière. Ah, tu vois le bouc, il est en pleine forme.
Oh là oui.
Il a la langue un petit peu tirée.
Bah je comprends. Hein.
Et puis il retrousse il retrousse un peu les langues.
Babines,
comme ça,
oui.
En fait c'est comme ça qu'il sent les hormones des autres chèvres. Et les chèvres aussi font ça parfois. Alors c'est très animal tout ça, hein, mais en même temps c'est plein de douceur. Ce bouc il est vraiment super gentil. Bon pas avec nos deux jeunes boucs, mais ça c'est normal.
Ah bah ça c'est oui, quand même un territoire à défendre et un cheptel à défendre. Hop.
Bah alors en fait, je réfléchissais hier qu'il n'a pas de nom, donc comme on a deux petits cochons, la France et Culture, je me demande si lui je l'appellerais pas Séchou. Voilà. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas les odeurs à la radio.
En plus, c'est de la bonne odeur, quoi.
Ah, ça, c'est du pur.
C'est du fort, mais c'est ça. Ouverture de la porte, et là, grand moment, elles se sont toutes massées, et hop! Dans les bois, on y va. Allez manger des glands les filles. Les glands vous attendent. Ah, un autre lieu
Les Compagnons de la Terre. Donc là, il y a la boutique. Alexandre Morin, alors là, racontez-nous, parce que donc vous faites partie de l'association des Compagnons de la Terre.
Oui.
Vous avez expérimenté.
C'est ça, je suis encore en train d'expérimenter. Je suis en test agricole sur du maraîchage.
Alors, vous veniez d'où au départ ?
Haute-Savoie. Et je me suis installé ici, dans la Drôme, pour justement tester mon activité, parce qu'en Haute-Savoie, je n'avais pas cette possibilité-là.
Ça veut donc dire qu'en fait, on a un peu le droit à l'erreur, quoi. On essaye, on teste, on voit ce qui va, ce qui ne va pas.
Oui, c'est ça. Bien sûr, on a droit à l'erreur. C'est aussi pour éviter de partir dans des gros investissements et se retrouver, au bout de quelques années, noyé par les dettes ou les choses comme ça.
Donc, en culotte courte, quoi, voilà. Voilà. Hugues Bernier, vous qui êtes quand même le monsieur agriculture à la communauté de communes du Val-de-Drôme, bon, vous devez être assez content, ça fait une trentaine d'années que vous êtes là. Si cette idée-là, évidemment, vous l'avez portée, vous aussi, de se dire, ouais, lançons-nous, mais essayons de tester avant.
Ah bah oui, parce que nous, ça fait, au niveau de la communauté de communes, ça doit faire 20 ans ou 30 ans qu'on essaye d'installer des gens, enfin qu'on essaye, qu'on accompagne, c'est pas... Et en fait, à chaque fois, il y avait toujours un facteur de blocage qui n'allait pas, pourquoi on n'arrivait pas à installer des jeunes, des nouveaux. Et on s'est aperçu que les facteurs de blocage étaient plusieurs points. Entre autres, les jeunes qui viennent pas, qui sont pas du milieu, bah ils connaissent pas le milieu, ils ont pas de réseau, ils ont pas de foncier. Un propriétaire, il a du mal à louer ou à vendre à un jeune. Et là, ça n'allait pas. Et on trouvait pas de solution. Et donc, avec les élus de la collectivité, la communauté de communes, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de mettre à disposition du foncier. Chaque jeune a 2 hectares pendant 2 ans ou 3 ans. Et il teste, il fait son réseau, il teste s'il a envie, il apprend, il crée sa crédibilité. Et puis par rapport à un propriétaire, et ben le propriétaire qui voudra lui louer, a priori, ben lui, il sera très content parce qu'il aura eu entendu,
il sera rassuré.
Il sera rassuré. Il se trouve qu'en plus, eux, ils vont tester leur outil de commercialisation. Et quand ils commercialisent, ils sont en contact aussi avec des gens qui sont potentiellement propriétaires. Et là, c'est tout un réseau. Et finalement, nous, le constat qu'on fait, c'est que tous les gens qui sont passés par là, ils ont un réseau vachement important. Après, nous, il y a des gens qui sont installés ailleurs, dans d'autres territoires, mais ce n'est pas un problème. C'était vraiment la notion de test et la notion de dire si on veut développer la Biovallée et si on veut développer l'agriculture sur le territoire, il faut qu'il y ait des jeunes.
Mademoiselle Dumaise est probablement une des meilleures candidates du centre de formation. Une fille qui bosse, hein, qui a de l'énergie.
Vous êtes mariée ?
Pas d'homme, pas d'enfant.
Si vous vous installez sans homme, vous ne tiendrez pas longtemps. Les gars, du coup, ils ne sont pas nombreux, ils comprennent après les femmes qui se lèvent à 5 heures. Pour traire les chèvres.
Contrairement à ce que vous pensez, monsieur, je suis pas une petite gamine de la ville qui vient faire un petit tour dans l'agriculture sur un coup de tête.
Perrine, ferme des 4 vaches. C'est incroyable ça, 4. Il en manque 996 pour faire les 1000 vaches.
Et ben voilà, c'est ça. Il y a des fermes usines à 1000 vaches et puis il y a des fermes à 4 vaches.
Ouais.
On va aller voir Amandine qui va nous expliquer le projet.
Tac, tac, tac. L'usine à 4 vaches. Ah oui, il est dedans. Il y a le panneau là. Bonjour.
Amandine.
Ça c'est pas une vache. Oui.
On peut rentrer.
Ah oui, non, ça c'est un labri là, tu peux. À propos de labri, on va s'y mettre nous aussi. Allez, hop. On s'embrasse pas parce que vous êtes malade, Amandine, c'est ça?
Oui.
Ah d'accord. Bon, c'est pas trop grave, ça va, c'est.
Non, un mauvais rhume.
Un mauvais rhume.
Ouais.
Mauvais rhume. Mais mauvais rhume, mais alors un joli veau, a priori.
Oui, très joli veau.
Alors racontez-nous, donc il vient de sortir.
Ah ben il est sorti il y a une heure, ouais.
Il est sorti il y a une heure.
Ouais.
Et alors là, la ferme des 4 vaches, c'est ce que l'on disait. C'est quoi le projet, l'idée de la ferme des 4 vaches?
L'idée, c'est de vivre d'un petit élevage.
Alors, ça veut dire qu'on a une belle valeur ajoutée, comme on dit aujourd'hui.
Une très très belle valeur ajoutée, ouais. C'est-à-dire, c'est une valorisation du lait, de la viande et un jour peut-être des peaux et même de la graisse en plein de produits.
Alors, vous êtes ici donc avec les Compagnons de la Terre, donc vous faites partie de ces locataires qui utilisaient donc pour pouvoir expérimenter votre idée.
L'idée, c'est de se dire, voilà, on n'est pas issu du milieu agricole. L'agriculture, ça s'improvise pas. Ça s'apprend, mais au long cours. Comme beaucoup, j'ai entamé une reconversion vers la trentaine. Et du coup, voilà, à l'issue de la reconversion, on va dire, théorique, c'était de se dire, j'ai appris plein de choses dans les bouquins. Ouais,
mais les travaux pratiques, faut les faire.
Et même si il y a beaucoup de stages et tout ça... c'est du vivant, quoi. Donc le vivant, ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps. Et pour le maîtriser, il faut du temps. Donc l'idée du lieu, c'est vraiment de nous accueillir pour qu'on puisse commencer sur une micro-échelle nos activités, se faire la main, et puis voir si ça nous plaît pas, on y arrive, on n'y arrive pas. tout en pensant à l'installation définitive.
Alors donc de jolies vaches, tout est en bio, ça veut dire que le fourrage que nous avons là, évidemment, est bio.
Le fourrage est bio. Et bon, après, l'élevage bio, c'est pas très compliqué. Hein. Ça dépend d'où on part quand on n'est pas bio, mais il s'agit de faire paître de l'herbe oui. aux vaches.
Parce qu'il paraît que ça mange de l'herbe, les vaches.
Oui,
ça,
voilà.
C'est incroyable.
C'est ça. Non, mais par rapport à du conventionnel, on va le dire industriel, où là, elles mangent des tourteaux, de l'herbe pré-broyée, voilà, des choses pré-broyées, pré-fermentées.
Et du soja OGM dans certains cas.
Du soja OGM dans certains cas, et puis d'autres céréales. Voilà, là, elles font juste que manger l'aliment qui naturellement qui leur convient et voilà, non, c'est pas très compliqué après hein, de l'herbe bio, de la paille bio, des soins bio
et de l'attention.
Et de l'attention, ouais, beaucoup d'attention.
Bah, on vous souhaite quoi, un veau supplémentaire, c'est ça?
Et ben là, on en attend encore 5, ouais.
Ah oui. Que ce projet après devienne une réalité encore plus importante, quoi.
Ouais, que je puisse en vivre.
C'est ça.
Là, j'en vis pas encore, mais voilà, pouvoir en vivre.
Vous aurez eu droit aux chèvres et aux vaches, mais attention, c'est pas fini. Non, vous allez voir, il y a encore du monde à rencontrer. Bah, c'était Bonnie Banane, c'était la lune et le soleil. Eh ouais.
Oh, comme c'est joliment présenté.
CO2, mon amour.
Maurice, ton assiette.
Merci. Maurice, il a mis un plat du dimanche.
Sur France Inter.
Et c'est pas dimanche.
Alors au départ, dans ces lieux, vous aviez donc des gens extérieurs, hein, comme très souvent, ça, vous aviez des Hollandais, des Suisses, des Allemands, il y avait aussi beaucoup de Français, des néo-ruraux, des babas, pas forcément des bobos, vous aviez des professeurs, des intellectuels. Bon, le climat est sain, il fait beau, vous aviez de la volonté, la terre était pas chère, on n'était pas très loin des grands axes. Donc tous ces gens-là, ils ont remonté des ruines. On est aussi quand même sur une terre protestante, c'est intéressant de le dire, parce que on sait accueillir, c'est-à-dire qu'on sait intégrer les gens d'ailleurs. Alors on a inventé des circuits courts, et donc là, on va poursuivre notre balade à la rencontre d'autres maillons de la chaîne humaine, et cette fois-ci en ville. Ah, ville de Cray. Cette fois-ci, Périne, changement d'ambiance. Hein.
Et oui, on arrive à Cray, on est mardi matin, c'est le marché hebdomadaire. Et on va prendre un petit temps avec un producteur qui s'appelle Nick, de la ferme de l'auberge. En attendant, bah, là on se promène, on passe devant les épices, les olives. On arrive sur un stand de pâtes fraîches, des ravioles, des raviolis, un peu de jambon cru.
Et bonjour Nick.
Bonjour Nick.
Donc, maraîcher bio, extraordinaire. Et alors, en plus, passionné par l'agroforesterie.
Nous avons fait une demande pour les subventions, le concours d'arbres d'avenir. On était dans les trois finalistes qui nous a permis de planter nos 2800 arbres forestiers et les 600 arbres fruitiers, dont 300 vignes dedans ça, qui nous a permis de remplir le plein champ avec les haies pour faire les brise-vents et compagnie, surtout pour le bois de chauffage. Et après, rentrer dans nos rotations de légumes, faire des zones avec les arbres fruitiers.
Et donc, c'est vraiment cet apport, ce mélange qui se faisait d'ailleurs autrefois, hein, il n'y a pas si longtemps.
On n'a rien inventé, non.
Voilà, entre l'arbre et donc aussi la culture.
Oui, carrément. Si c'est bien mené, il y a toujours le problème de...
De l'ombre, quoi qu'il
arrive. De l'ombre, oui. Les branches qui peuvent gêner les passages de tracteurs. Nous, ça n'est pas trop problème. La plus grande chose, c'est la moissonneuse qui vient. Après, c'est l'enracinement. Mais ça, avec le travail du sol, de toute façon, on empêche que ça vienne dans la culture.
Qu'est-ce qui vous a fait venir ici?
Moi, c'est la culture, l'acceptation de le bio, parce qu'en Angleterre, c'est pas très développé encore. C'est pas très connu et il n'y a pas beaucoup de demandes. Le climat aussi, parce que
ça change un peu.
Hein. Ah oui, tout pousse ici, c'est génial.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, Nick?
Que les arbres poussent.
Périne Tavernier, là on voit GIE, AI et échalote. Alors GIE, groupement d'intérêt donc économique. Bio là aussi ou c'est mélangé deux?
Déjà il faut savoir que dans la vallée de la Drôme on est un territoire, un des premiers territoires producteurs d'ail, parce qu'il y a en tout cas d'ail semence, parce qu'il y a 60% de l'ail semence qui est vendu en France qui vient de la vallée de la Drôme. Et donc ce GIE à la base il a été plutôt monté par des agriculteurs conventionnels.
Ouais.
Et progressivement il y a eu des bio qui se sont intégrés au projet, et donc ça c'est vraiment intéressant parce que la mixité des agriculteurs bio et conventionnels au sein d'un groupement, ça permet aussi l'échange à travers au départ un objectif économique et de commercialisation. Ça les amène à avoir des échanges techniques sur des méthodes de production, sur des outils, avoir des groupes de travail collectifs pour faire de la recherche par exemple sur l'impact du compost ou de la qualité du sol sur les maladies de l'ail, etc.
Oui, donc ça veut dire qu'on ne les oppose pas, au contraire, il y a un brassage qui s'opère.
Oui, voilà, et c'est tout l'intérêt, parce qu'on ne va pas accompagner le développement d'une agriculture durable en opposant les gens ou en jugeant les pratiques, c'est pas ça qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est faire du lien, se faire se connaître les gens, et puis se rendre compte que chacun, avec ses contraintes, sa réalité, sa culture, là d'où il vient, fait comme il peut.
Mais le petit bio est devenu grand, alors?
Ah bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, au GIE, il y a de plus en plus de producteurs qui sont en bio. Et on voit bien aussi que ça joue sur les marchés. Le marché du bio se développe. Il y a certains marchés qui avant étaient en conventionnel qui sont en train de passer en bio. Donc ça pose aussi des questions.
Il y a des tensions, inévitablement.
Ah ouais, voilà, mais qui sont propres à tous les collectifs.
Alors nous sommes donc là sur l'écocite. Hein. Ça, c'est quand même assez innovant. Enfin, je veux dire qu'il n'y en a pas 50 en France, des comme ça. Et là, c'est donc le pôle.
Alors ici, c'est le pôle bio. C'est un bâtiment qui va bientôt être inauguré, qui a été construit par la communauté de communes du Val-de-Drôme, dans lequel on trouve deux hangars de 300 mètres carrés au rez-de-chaussée. Ouais. Donc il y a la plateforme Agricourt, dont on parle, qui est basée ici. Et puis au-dessus, il y a une vingtaine de bureaux. Donc il y a l'association Agribiodrôme, il y a l'association Court-Circuit, il y a un groupement d'employeurs qui s'appelle Agri-Travail, il y a un bureau mutualisé entre des chercheurs de l'IRSTEA, de l'INRA, de l'ITAB. voilà, qui est en train de
se monter. Ça veut dire que c'est très professionnel maintenant.
Ah ben voilà, le but c'est ça, c'est d'accompagner la professionnalisation, toujours en restant dans cette logique de convivialité, de lien, et toujours en faisant le pari que les projets de développement, ils se font surtout autour de la table, au repas de midi ou le matin au café, entre des humains, quoi.
Alors, dans cet écho-ci, je me tourne vers une jeune fille, Julia Wright. Bonjour à vous, Julia.
Bonjour.
Alors, différents projets qui sont tout à fait intéressants. Là, je vois juste un dessin d'alambic. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire?
C'est un groupe de producteurs, donc des producteurs de plantes aromatiques et médicinales dans la vallée de la Drôme et un petit peu autour. Des petits producteurs diversifiés qui travaillent beaucoup manuellement, peu de tracteurs, etc. et qui aimeraient avoir un outil adapté à leurs besoins pour transformer leurs plantes en huile essentielle. Mm-hmm. Et donc, nous, on travaille à les concerter, les mettre d'accord sur l'outil collectif qui correspondrait à leurs besoins et travailler sur la gouvernance de cet outil-là, quoi. Bah, ils en seront propriétaires et responsables collectivement. Plutôt que d'aller faire des bornes à l'autre bout de la Drôme pour aller chez un distillateur avec des énormes volumes, parce que dans la Drôme, on a quand même des gros volumes de plantes aromatiques et médicinales, faire distiller leurs plantes là-bas, donc aller-retour à chaque fois, aller récupérer l'huile essentielle, ne pas maîtriser le processus de transformation. Là, créer un outil qui leur appartient collectivement, ils ont la maîtrise de A à Z de leurs produits, et donc c'est adapté à leur petite surface diversifiée.
Et puis il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est évidemment celui de la vigne. Ici, on connaît la clairette, entre autres choses. Et donc, évidemment, cette vigne-là, elle est attaquée comme partout. Si vous avez de l'humidité, vous avez donc des champignons, vous avez l'oïdium, vous avez le mildiou. Et aujourd'hui, donc, les méthodes classiques, qui soient d'ailleurs en bio ou en conventionnel, c'est la bouillie bordelaise, autrement dit donc du cuivre d'un côté, et puis du soufre de l'autre. Hein, mm-hmm. Donc, c'est autorisé, c'est bien sûr en bio. Et votre travail, donc, consiste en quoi aujourd'hui? Quelle est votre recherche?
On accompagne les viticulteurs bio qui souhaitent diminuer les doses de soufre et de cuivre dans leurs vignes, notamment par l'usage de plantes sous forme de purin, etc. Purin d'ortie, purin de consoude. Ils expérimentent chacun de leur côté. Donc nous, on les met ensemble, on les fait discuter. Ils partagent leurs expériences et ils vont de l'avant ensemble.
Merci à notre guide Perrine Tavernier. Alors, retour de l'excellent Secret d'Info. Jacques Monin et son équipe de Fin Limier reviennent le samedi 29 août. Et nous, on reviendra comme dans le monde d'avant, le dimanche 30 août à 13h20 pour remplir de nouveaux carnets de nature avec des bêtes, des plantes, des herbes, des oiseaux, des rivières, des gens. Oui, vous savez, les fameux gens que nous sommes tous, et qui vivent, qui agissent et s'intéressent aux autres. Je viendrai faire des incursions matinales naturalistes vers 6h20 les trois premières semaines d'août. Jérôme Boulet, Camille Blanès, Denis Chessou, le Twitter, tout attaché. On vous souhaite un bel été et dans ce fracas du monde, une vie apaisée à l'écoute de France Inter.